La personne dont on va parler, dont on va regarder dans l'Écriture, elle est un exemple pour les générations à venir, puisque c'est un cas de figure que nous trouvons dans les évangiles, et cette personne va être une référence d'encouragement de la foi, une foi qui va persévérer. Il est évident que notre foi n'est pas seulement instantanée, nous n'avons pas juste la foi en Dieu ce soir, mais il faut que notre foi soit une foi vivante demain, après-demain, et encore dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans aussi. Et pour que notre foi tienne et que nous soyons une référence, un pilier de notre maison, Dieu va faire grandir notre foi. Comment va-t-il faire? En éprouvant notre foi. Comme dit Hébreux chapitre 6, c'est par la foi et la persévérance, dites-moi la suite, que nous héritons des promesses. Par la foi et la persévérance. Donc Dieu, nous allons voir ce soir, Dieu va éprouver la foi pour qu'elle grandisse. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Lorsque vous regardez le texte qui précède et le texte qui suit, nous voyons que Jésus, qui exerce son ministère dans la Galilée, donc dans le nord du pays d'Israël, va quitter son pays pour aller dans un autre pays, dans la contrée de Tyr et de Sidon, qui sont des contrées connues pour leur paganisme notoire, pour les idoles et surtout les fameuses idoles de Baal et d'Astarté, qui étaient des divinités incroyables, ténébreuses, qui amenaient les ténèbres dans ce coin de pays. Et Jésus va se retirer là, prendre un peu de repos, de vacances peut-être, avec ses disciples. Et il va, après cet événement que nous venons de lire, il va revenir. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est dirigé par son Père tout le temps. Il sent, il entend de la part du Père qu'il doit aller dans un autre pays pour une personne, puis revenir. En fait, le texte parallèle dans Marc chapitre 7, il nous a dit, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Quand Jésus est quelque part, il ne peut pas rester caché. Il veut se cacher, mais la gloire et la puissance qui est en lui, ça émane tellement de lui. Il y a une présence qui diffuse de sa personne tout entière. Il ne peut pas rester caché. Quand Jésus est dans ton cœur, il ne peut pas rester caché. Je trouve que ce ne serait pas normal que quelqu'un qui se dit chrétien et qu'à sa place de travail, au bout de 20 ans de travail, on n'a jamais remarqué qu'il y avait quelque chose de chrétien dans sa vie. Ce ne serait vraiment pas normal. Je ne sais pas quel Jésus habite dans cette personne-là. Quand Jésus habite dans ta vie et dans ta maison, il ne peut rester caché. Il faut que ça se voie. Donc Jésus arrive dans ce pays, guidé par son Père, à l'écoute de son Père, pour un moment de repos, se mettre à l'écart, et pourtant il sait qu'il y a un rendez-vous divin pour lui, pour une seule personne. Et je prie que ce soir, le Seigneur ait un rendez-vous avec en tout cas une personne parmi nous. Mais je crois à vous tous, avec au moins une. Jésus ne vient jamais quelque part pour rien faire du tout. Même s'il est en vacances, il fait encore des choses. Dans vos vacances, soyez attentifs au Saint-Esprit. Il risque bien de vous utiliser même dans vos vacances. Je disais donc que le territoire de Tyr et de Sidon était connu pour être particulièrement enténébré. Jésus s'en va dans un endroit occulte. Mais lorsque Jésus arrive même dans l'endroit le plus noir, sa lumière brise les ténèbres. Dans l'endroit le plus noir, vous avez l'impression que vous travaillez dans un endroit qui est ténébreux, vous avez l'impression que vous vivez ou que vous venez d'un coin de pays qui est noir. En Belgique, il y a un coin qui s'appelle le pays noir. Il n'est pas forcément noir parce qu'il y a une atmosphère spirituelle bizarre, mais il est noir parce que c'est le territoire du charbon. Le charbon, ça rend un pays noir. Vous savez, quand une région a été, où le charbon a été exploité, à un moment donné, les poussières de charbon envahissent toute la région et tout est noir. Le pays noir, ça existe en Belgique, c'est la région de Charleroi, en Belgique. Mais plus que le pays noir, c'est les ténèbres spirituelles, une lourdeur spirituelle existe. Est-ce que quelqu'un connaît des endroits où il y a une lourdeur spirituelle? Vous avez déjà entendu, vous avez déjà ressenti ça? Vous êtes quelque part et vous avez l'impression que c'est irrespirable, c'est lourd, c'est enténébré. On dirait que des hordes de démons logent dans les mêmes endroits que vous allez. Mais Jésus, quand il arrive, il brise les ténèbres. Partout où il passe, la lumière arrive et elle brise les ténèbres. Et lorsque vous arrivez quelque part où il fait noir, à cause de la vie de Jésus en vous, à cause du Saint-Esprit en vous, vous aussi, vous brisez les ténèbres. Vous dérangez les ténèbres. Lorsque nous sommes arrivés ici, j'ai peut-être déjà raconté cela, la première semaine que nous sommes, vous savez que nous habitons ici au-dessus depuis 20 ans, toute première semaine, j'étais encore dans nos cartons, on n'a encore pas déballé. Première semaine, au bout de, je ne sais pas, c'était 3-4 jours, j'étais pas là, ma femme était là à la maison, quelqu'un arrive, on n'a jamais vu, jamais connu, on ne sait pas qui c'est, quelqu'un qui habitait dans la maison, qui a sonné, et avec une fureur, avec une méchanceté, a commencé, sans dire bonjour, c'est rien, a commencé à insulter ma femme comme ça. Quand la lumière arrive, les ténèbres sont dérangées. Cette personne, on a su plus tard qu'elle créait un problème dans la maison et qu'elle ne pouvait pas être congédiée. Mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose. La prière est puissante. Nous avons prié pour que des personnes qui ont une influence négative et qui n'ont pas leur place, Dieu peut les remuer quand il veut. Mais pour cela, nous avons prié. Et alors qu'aucune solution humaine n'était envisageable, elle est partie. Elle est partie. Comme ça. La prière est puissante. Lorsque vous êtes quelque part, ne vous étonnez pas que votre présence dérange les ténèbres. Dérange les ténèbres. Jésus arrive donc à Tyr et à Sidon. Et voilà que tout de suite, cette maman arrive vers lui. Et il nous est dit dans le texte de Matthieu que elle cria, dans le texte parallèle de Marc, il nous est dit qu'elle vint se jeter à ses pieds. Elle vient, elle a quand même entendu parler de Jésus, qui voulait rester incognito, mais elle a quand même entendu quelque chose, et elle s'est précipitée vers lui. Et elle dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Est-ce qu'elle venait pour elle-même? Non. Elle n'avait pas un problème. Sa fille avait un problème. Mais le problème de sa fille, c'était son problème. Le problème de votre enfant, c'est votre problème, n'est-ce pas vrai? J'invente rien. C'est notre chair, c'est la chair de notre chair. Quelqu'un de la famille est touché, je suis touché. Toute la famille est touchée. Seigneur, au secours, viens à mon secours. Secours-moi. Parce que la maman portait le fardeau de sa fille qui avait un problème grave. Et cette maman qui habitait donc dans un coin païen, non juif, païen, enténébré par les divinités de Baal et d'Astarté, elle avait compris que sa fille souffrait d'une maladie spirituelle. Mes amis, quand nos enfants sont touchés, nous devons savoir discerner s'il s'agit de quelque chose de physique, si quelque chose à cause des circonstances, ou si c'est quelque chose de spirituel. Spirituel. Il faut du discernement pour cela. Et cette femme, qui n'avait probablement pas encore beaucoup de lumière, d'éclairage spirituel, elle savait pourtant que le problème de sa fille, c'était un problème démoniaque, clairement. Elle avait compris que dans sa maison, il y avait une confrontation de puissance. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Que dans votre propre maison, même si vous êtes chrétien, tout à coup, il y a comme un orage intérieur qui est là et il y a une confrontation de puissance entre ce qui est juste puis ce qui est faux, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre la paix et la dispute. Des confrontations entre la méchanceté et la gentillesse. Il y a comme deux nuages qui se confrontent, deux puissances invisibles qui se confrontent. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ah oui. Et cette maman, elle réalise que ces puissances déchaînées dans sa maison, qui viennent sur sa fille, elle n'arrive pas à faire face. Elle n'a pas la force. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors elle se tourne vers Jésus qui, heureusement, elle a entendu parler et qui passe par là. Jésus passe par là. Jésus est tout près et c'est l'occasion qu'il faut saisir. Vous savez, dans la vie, il y a des occasions à saisir. Il y a des occasions à saisir. Et quand ça passe, on a peut-être une deuxième chance, mais parfois c'est plus difficile de la saisir. Quand il y a quelque chose que vous sentez, c'est le moment, il faut le faire. Il faut le faire. Je parlais encore récemment avec des personnes qui prennent le baptême et ils me disent « Oui, mais je ne sais pas trop. » Je dis « C'est l'occasion. » Ne retarde, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne retarde pas, demain tu ne sais pas ce qu'il y aura. Saisis l'occasion qui passe. Cette femme va donc saisir l'occasion qui passe. Jésus est là et cette femme, non juive, je le rappelle, va dire cette prière, « Seigneur, fils de David !» Vous ne trouvez pas qu'elle fait une bonne prière. Elle s'adresse à la bonne personne avec le bon titre. Elle a compris que ce Jésus qui vient du pays voisin, c'est le Seigneur, le fils de David. Elle reconnaît en lui la descendance de David, elle reconnaît la messianité de Jésus. Est-ce que vous avez reconnu Jésus comme votre Messie, le Sauveur? Elle fait une bonne prière adressée à la bonne personne. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée. » Elle a placé sa foi dans celui qu'elle ne connaît pas encore vraiment, mais elle sait qui c'est. Elle sait qui c'est. C'est assez étonnant de la part d'une étrangère qui reconnaît l'autorité de Jésus, sa position, qui confesse qu'il est le Messie. Alors, cette femme qui a un gros problème, qui fait une bonne prière, est-ce qu'elle va être exaucée rapidement? Elle a une grande souffrance, c'est une maman. Vous ne trouvez pas que Dieu devrait l'exaucer rapidement? Elle n'a pas inventé son besoin, elle a besoin de Dieu, elle a besoin du secours. Elle fait une bonne prière. Peut-être que vous avez aussi fait une bonne prière et que la réponse n'est pas arrivée, pas tout de suite. Et cette femme va devoir franchir quatre obstacles. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que notre foi puisse grandir, Dieu se permet de mettre des obstacles devant nous pour faire grandir notre foi. Il y a une première barrière qui est là, et le texte nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne répond rien. Il ne se dépêche pas de répondre. Il est silencieux. Mais Jésus, tu ne peux pas ne rien dire, il faut que tu fasses quelque chose. Mes amis, nous n'avons pas le droit d'imposer à Dieu quoi que ce soit. Il est souverain en toutes choses. Il est souverain. Et s'il ne veut pas parler, nous devons supporter son silence. Avez-vous déjà supporté le silence de Dieu? Vous avez prié. Vous avez prié encore. Vous avez même jeûné, vous avez pris des périodes de prière. Et le silence était toujours là. Et c'est un test, nous le savons. C'est difficile de supporter le silence de Dieu. C'est un test pour notre confiance. Est-ce qu'après avoir prié peut-être des semaines ou des mois, vous avez toujours cette confiance ce soir? C'est un test par lequel vous passez. Daniel avait prié. Et le texte biblique nous dit dans le livre de Daniel que ce n'est qu'au bout de 21 jours que la réponse est arrivée. Nous avons parlé d'Abraham, de Moïse, pardon, qui était monté sur le Sinaï. Et le texte nous dit que Moïse est venu vers Dieu suite à son invitation. Et la Bible, si vous la lisez attentivement dans Exode, chapitre 32, 33, eh bien vous verrez que Moïse a entendu Dieu lui parler au bout de 6 jours, seulement 6 jours. 6 jours de silence. Après, Dieu parle. Et à partir de quel moment est-ce qu'il va recevoir les tables de la loi? À la fin des 40 jours. Nous vivons dans une société, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que ça arrive, il faut qu'on pousse sur les boutons et il faut que ça aille vite. Mais Dieu n'est pas pressé, Dieu a son temps et son temps nous éprouve. Son silence nous éprouve. Jésus donc est silencieux. Je pense à quelques témoignages, par exemple ce pasteur qui priait pour les malades et qui avait beaucoup de résultats, alors que dans sa propre famille, il y avait de la maladie sans être exaucée. Je pense à ce pasteur qui priait pour une jeune fille qui était tombée enceinte à 14 ou 15 ans. Et elle s'avançait et il devait prier pour elle alors que sa propre femme avait fait 6 fausses couches. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ça ne marchait pas. Et voilà qu'une jeune fille qui ne voulait pas un enfant, à 14, 15 ans, elle avait un enfant et le pasteur prie pour elle. Ça, ce sont des choses avec lesquelles nous sommes confrontés quand il n'y a pas de réponse, parfois à nos questions lancinantes. Et pourtant, Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Il s'occupe de toi, ne désespère pas. Son silence ne veut pas dire qu'il ne tient pas compte de ta prière. Son silence ne veut pas dire qu'il ne s'inquiète pas de toi. Accepte le silence du Seigneur et fait grandir ta foi. Au verset 23, nous avons la deuxième barrière qui se dresse. Cette femme donc supporte le silence de Jésus et puis nous voyons que ses disciples ont-ils un mauvais jour, je ne sais pas. Ils disent « Renvoie-la, Seigneur !» Quel accueil, quel comité d'accueil. Je ne voudrais pas engager ces gens-là pour notre équipe d'accueil. Non, non, vraiment, merci. Vous savez, c'est important dans une église d'être accueilli. C'est important d'être accepté, d'accueilli par les disciples de Jésus, mais eux, ils disent, Seigneur, renvoie-la, on n'a pas le temps, on n'a pas envie d'être confronté à des cas qui vont nous prendre du temps. Seigneur, renvoie-la, libère-la, renvoie-la. Ils insistent pour être débarrassés. D'ailleurs, ce n'est pas une interprétation que je fais parce que dans d'autres textes, par exemple, quand Bartimée va crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, les disciples disent, tais-toi, tais-toi. Reste là où tu es. Ils ont la même réaction. Quand la foule a faim, ils disent, Seigneur, renvoie la foule. Jésus dit, non, non, donnez-leur à manger. Les disciples ont souvent cette réaction de ne pas accueillir, parce qu'on peut comprendre, ils sont peut-être envahis tout le temps. Donc l'importance de l'accueil. Mais cette femme, regardez le texte, quand les disciples disent, renvoie-la, elle aurait pu dire, mais je suis venu, je me suis déplacé, j'ai fait une bonne prière, les amis de Jésus ne veulent pas de moi, je rentre chez moi, j'ai tout fait juste, tant pis. Il nous est dit dans ce texte qu'elle a fait le tour des disciples et qu'elle s'est prosternée devant le Seigneur. Elle ne s'est pas laissée dérouter par le manque d'accueil. Frères et sœurs, peut-être que l'accueil dans l'église n'est pas toujours top. Ce n'est pas toujours du 24 carats ou du 18 carats, que sais-je. Ce n'est pas toujours vraiment ce que vous aurez souhaité. Ne mettez pas vos attentes dans les équipes d'accueil, forcément. Même si l'accueil, on cherche à le soigner. Allez vers Jésus, droit vers lui, ne vous occupez pas du reste. Cette femme va faire le tour des disciples et elle va être confrontée à la troisième barrière. Car on pourrait dire que une barrière, c'est bon, ça suffit. Une deuxième barrière, ce n'est pas facile. Mais Jésus va lever une troisième barrière pour éprouver sa foi. C'est pour ça qu'à la fin, il va dire, « Femme, ta foi est grande. » Il n'y a que 2 personnes dans la Bible où Jésus va dire ça. 2. Elle fait partie de ces 2-là. lorsque Jésus aura dressé des barrières pour éprouver votre foi, le niveau de votre foi, la profondeur de votre foi, après il va dire, mon frère, ma sœur, mon enfant, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi, et tu seras exaucé puissamment. Une troisième barrière se lève, et Jésus va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors bien sûr, maintenant, elle pourrait dire, mais alors vraiment, maintenant, je n'ai pas de chance du tout. Je ne suis pas d'Israël. Je suis de Tyr, de Sidon, je ne fais pas partie des élus, du peuple élu. Alors, tant pis, je rentre chez moi, il n'y a pas d'issue à mon problème. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Comment est-ce qu'elle a dû ressentir cela? Sous forme de rejet? Parfois, voyez-vous, dans la Bible, nous aimons les versets qui nous font du bien, n'est-ce pas? Des versets qui nous font du bien. Dieu nous aime, l'amour de Dieu remplit nos cœurs et a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ses enfants. Nous aimons ces versets de consolation qui sont doux à nos cœurs, qui nous font du bien. Mais vous savez, il n'y a pas que ça dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup de paroles qu'on ne comprend pas exactement. Il y a, dans les choses que les prophètes ont données à Israël, beaucoup de paroles tranchantes comme un couteau. Tranchantes. Et ici, le Seigneur dit la vérité. Parfois, la vérité, elle blesse. Parfois, la vérité, elle doit être entendue. Elle nous déroute. C'est comme un coup de poing qu'on reçoit et qui nous déstabilise. Mais Jésus dit la vérité que je vous dis, tu ne la comprends pas entièrement, ça te dérange, mais je te demande de l'accepter. Est-ce que nous acceptons les vérités, parfois dures à avaler? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur redit, je viens d'abord pour mes frères, les Juifs. Je suis d'abord venu pour eux. Eux, ils ont besoin du Messie. Bien sûr, ce n'est pas tout l'évangile parce que la bonne nouvelle doit être annoncée au monde entier après. Mais d'abord, c'est les Juifs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore entendre ça? Le Seigneur est venu pour Israël en premier lieu. D'ailleurs, écoutez, Actes 3, 26 nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui prêche, « C'est à vous, premièrement, il s'adresse aux Juifs, que Dieu a suscité son serviteur, il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses péchés. C'est à vous, premièrement, que le Messie est venu. » Acte 13, 26, « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Et au verset 46, c'est la même chose. « Israël d'abord !» C'est pour ça que nous prions pour Israël. C'est pour ça que nous avons des réunions de prière pour Israël. Parce que le plan de Dieu n'a pas bougé. Il ne bouge pas parce que nous, on a envie d'autre chose. Il faut accepter le chemin de Dieu, pas notre propre idée. Nous devons aligner notre volonté à la sienne et non pas l'inverse. Dire, Seigneur, ça ne me plaît pas, certaines choses sont... Acceptons la parole de Dieu et faisons comme cette femme qui s'est soumise à la parole de Dieu. Elle a accepté ça. Regardez le verset 25. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle va dire, elle ne dit rien. Il est dit, elle vint se prosterner devant lui, alors que d'abord elle crie derrière lui. Maintenant, elle barre le chemin au Seigneur. Elle se met à plat ventre devant Jésus et dit, Seigneur, si tu veux passer, tu dois passer sur moi. Je te barre la route. Je n'ai rien à dire, je réponds rien. Viens à mon secours. Mon problème est tellement grave. Je n'ai aucune solution que toi. Je me prosterne devant toi et j'attends que tu fasses quelque chose. Elle refuse de retourner. Elle refuse le découragement. Elle refuse le rejet. La quatrième barrière va se lever maintenant. Encore une. Mais Seigneur, elle n'a plus de force, cette pauvre femme. Elle n'a plus de force. Elle est là, elle se prosterne devant toi. Et toi, tu lui mets encore une épreuve. Dieu est souverain, je l'ai dit. Et Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Alors Jésus parle, encore une fois. Et il va dire une parole incroyable. Et je ne dis pas que je comprends cette parole. Jésus va dire cette parole qui touche, qui nous déroute. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, quand même, il n'est pas dit qu'il considère cette femme comme une chienne. Non, ça c'est pas dit. Il prend une image. C'est vrai que les païens, pour les juifs, étaient considérés parfois comme des chiens. C'est déjà, je ne sais pas, très glorieux pour les juifs de penser ça à l'époque. Mais Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je n'ai pas de chien à la maison, mais quand j'étais enfant, il y en avait à la maison. Mais un petit chien, qu'est-ce qu'il fait? Vous le chassez parce qu'il vient, s'amuser, jouer, tout ça. Quand vous le chassez, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Vous le chassez encore une fois. Allez, bouge. Il revient une deuxième fois. Et il prend ça comme un jeu. Vous le repoussez, il prend ça comme un jeu. Il revient une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Il revient toujours. Et Jésus dit, mais toi, tu ne lâches vraiment pas. Tu lâches vraiment pas. Tu es comme ces petits chiens qui reviennent toujours, toujours. Tu tiens ferme et tu as cette persévérance. C'est comme ça que je donne une interprétation. Je ne dis pas que c'est la seule. Et maintenant, écoutez cette parole. Ça, c'est la clé de ce texte. C'est la clé pour nous ce soir. Regardez avec moi le verset 27. Tu peux le projeter. Verset 27. Elle va dire ceci. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Vous vous rendez compte? Elle a supporté le silence de Jésus, elle a été mal accueillie par les disciples, elle réalise que Jésus est venu pour Israël et pas pour son peuple. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, les enfants c'est Israël, pour le donner aux autres. Et elle dit, oui, je suis d'accord. Alors Jésus, il est bouche bée. Elle a dit, oui Seigneur. Et elle va même rebondir en disant, oui Seigneur, mais nous, Seigneur, si tu me laisses juste une miette de ce qui tombe de la table, ça me suffira pour être guéri. Seigneur, une miette de ta puissance, juste un déchet de ta puissance, un petit résidu de ta puissance suffira pour toucher et délivrer ma fille de ce démon. Seigneur, un petit peu de puissance qui tombe de ta table, tu n'aimes pas, tu n'as même pas besoin de te déplacer, je le ramasse moi-même, ça suffira Seigneur, il y a assez d'onction en toi pour guérir ma fille même avec une miette. Alléluia, ça c'est la foi, ça c'est la foi. Une miette suffira, Seigneur, il n'y a rien qui va te déranger, moi je ramasse juste la miette qui tombe de la table du maître. Elle dit d'abord, oui Seigneur. Peut-être qu'elle était encore prosternée, peut-être qu'elle s'est relevée. Elle était déjà tout en bas, mais elle accepte de se soumettre entièrement. Et c'est ça ma parole pour vous ce soir. Est-ce que nous nous soumettons vraiment au Seigneur? En acceptant même les choses qui ne nous plaisent pas. En acceptant même les silences. En acceptant même les défauts dans l'Église, des choses qui ne marchent pas bien. Est-ce que nous sommes d'accord de nous soumettre au Seigneur et dire, oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, mais je suis d'accord avec toi, quoi qu'il se passe, parce que tu es souverain et je me soumets à ta souveraineté. Mais Seigneur, donne-moi juste des miettes. Et j'aimerais vous dire ce soir, enfants de Dieu qui vous êtes là, vous avez droit au pain de la table et pas seulement des miettes en dessous de la table. Vous avez droit de vous servir du pain, de la bénédiction, du pain, de la guérison, du pain, de la délivrance, du pain, des solutions divines, le pain de la parole, c'est pour nous ce soir. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus va dire, femme, ta foi est grande, je ne me déplace même pas à la maison, tout est réglé. Le démon est déjà chassé. Jésus va vraiment étonner ses disciples, qui eux vont se taire maintenant, ils ne vont plus dire « rejette-la », mais ils vont avoir une leçon, parce que cette femme va leur donner une leçon. C'était mon message pour vous ce soir. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Amen.